Les élèves de 4e du collège Louis Boulan de Couloisy vous proposent leur conseil de lecture.
Salut Thibault.
Bonjour Donatien.
Alors, parlons peu, parlons livre, quelle est l'histoire du jour?
Nous allons parler de Boys Don't Cry, écrit par Mallory Blackman et édité aux éditions Milan.
De quoi parle ce roman?
Ce roman raconte deux histoires en une. Il s'agit de deux frères, Dante et Adam, dont nous suivons l'histoire en parallèle. Dante, qui devient père très jeune, puisqu'il a 17 ans, va devoir apprendre à s'occuper de sa fille Emma. Adam, lui, est un homosexuel, et en même temps que de découvrir le premier amour, il va découvrir la violence.
Quel est ton personnage préféré? Personnellement, moi c'est Dante. Sa situation nous tient en haleine à cause du fait qu'il doit choisir entre les études et sa fille Emma. Il finira par choisir sa fille, ce qui est touchant. Mais en même temps, cela m'a attristé de voir qu'il devait renoncer à ses études. C'est son évolution dans le récit qui m'a plu. D'abord, il n'accepte pas que cet enfant soit sa fille. Ensuite, il décide finalement de la garder car il s'y est trop attaché. Et puis, le roman présente une fin ouverte. Certes, il a pris une décision, mais il reste une part de suspense, car on ne sait pas comment il va prendre en charge matériellement cet enfant.
Mon personnage préféré est Adam. Son histoire me touche car il doit faire face au harcèlement et à l'homophobie de son entourage. Par exemple, il se fait insulter par ses camarades. Malgré tout, il essaie de garder la tête haute.
Le personnage de Josh est aussi intéressant. C'est le meilleur ami de Dante et on apprend par la suite qu'il a été le compagnon d'Adam. Mais c'est un homosexuel qui ne s'assume pas. Et ce refus de lui-même va le pousser à frapper Adam d'ailleurs. Mais les préjugés sont partout dans ce livre, puisque Dante fait face aux moqueries des personnes qui apprennent qu'Emma est sa fille et non sa petite sœur.
Les points forts de ce livre sont les émotions des personnages qui sont très bien retranscrites. Et la morale de cette histoire est que malgré notre façon d'être, nous avons tous le droit au respect et à la différence.
Et il y a un personnage qui représente très bien ce respect, c'est la petite Emma. Lorsqu'elle voit Adam après son agression et qu'elle lui manifeste tout son amour. Nous allons vous lire un extrait.
Emma entourait ses bras autour de mon cou et appuyait sa joue contre la mienne. Elle m'a serré contre elle, comme si elle n'allait plus jamais me lâcher. Comme si elle ressentait tout ce que je ressentais. C'était si étrange qu'elle me console. Je me suis accroché à elle. Et quand mes larmes ont commencé à couler, elles n'ont plus voulu s'arrêter. Et Emma ne me lâchait toujours pas. Elle n'avait pas peur de moi et de mon visage défiguré. Elle n'avait pas détourné le regard, comme si j'étais un monstre. Elle m'a juste embrassé et serré plus fort.
Il faut lire ce roman qui évoque aussi l'adolescence, le passage difficile à l'âge adulte et toutes ces questions que l'on se pose alors. Boys Don't Cry de Mallory Blackman est édité par Milan.
Bonjour Natalia, tu as lu le roman qui s'intitule Mon ami Frédéric, écrit par Hans-Peter Richter et publié dans le livre de poche. Ce roman raconte l'histoire d'un enfant prénommé Frédéric et de toute sa famille. Ils sont juifs, ils vivent en Allemagne, et malheureusement, ils vont rencontrer de nombreux problèmes quand Adolf Hitler va prendre le pouvoir.
Effectivement, ce roman raconte la vie d'une famille juive et de ses difficultés quand Hitler va prendre le pouvoir. Le narrateur est un personnage du récit, Hans, c'est lui qui raconte l'histoire de son meilleur ami, Frédéric, qui va montrer son courage tout au long de l'histoire.
Frédéric est un personnage attachant. Il va revendiquer ses origines juives malgré un quotidien bien difficile.
Oui, il va se faire harceler à l'école par exemple, mais malgré ses malheurs, il va rester fort.
Parlons de la famille de Frédéric. Par exemple, sa mère, Madame Schneider. C'est une femme gentille et serviable qui mourra de ses blessures le jour où son appartement sera saccagé par des voisins allemands.
Pour son père aussi, ça serait très difficile. Il perd son travail quand Frédéric aura 15 ans et par la suite il sera emprisonné parce qu'il cache un juif chez lui.
As-tu aimé un personnage en particulier?
Oui, j'ai aimé le narrateur de l'histoire, Hans, le meilleur ami de Frédéric. Il reste à ses côtés tout au long de l'histoire. Par exemple, lorsque Hans casse une vitre avec une balle, c'est Frédéric qui sera accusé par la commerçante parce qu'il est juif. Mais Hans va le défendre en se dénonçant. Et toi?
J'ai particulièrement aimé Frédéric. Il est sympathique et malgré ses multiples malheurs, il s'en sort toujours. Dis-moi, as-tu aimé un passage en particulier?
C'est le moment où Frédéric et Madame Schneider jouent dans la neige. C'est un moment qui engaillit ce récit très souvent triste. Voici ce passage. Frédéric, debout près de sa mère, la regarda d'abord avec curiosité, puis Il partit tout à coup en courant vers l'endroit du trottoir où la neige était bien propre et commença à rouler une boule. Elle eut fini la première, sa boule était la plus grosse. Elle la tassa de toutes ses forces et puis sur le trottoir devant notre maison et s'assit même dessus pour l'aplatir un peu. Elle prit la boule de Frédéric, la posa sur l'autre et s'y monta les deux avec de la neige fraîche.
Ce récit finalement traite de nombreux thèmes. Il évoque le racisme pendant la Seconde Guerre mondiale, la discrimination à l'égard des Juifs.
Il parle aussi de l'amitié et cette relation entre Hans et Frédéric redonne un peu de couleur à ce livre et de l'espoir. Malgré ces difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, il faut toujours rester fort, comme nous le montre ce roman. Nous vous invitons à le lire, il ne pourra que vous plaire.
Mon ami Frédéric de Hans-Peter Richter est publié au livre de poche.
Bonjour Maxence, nous sommes ici pour parler d'un roman que tu as lu, Poil de carotte, écrit par Jules Renard et édité chez Gallimard.
Oui, je l'ai lu, je l'ai adoré. J'ai trouvé cette lecture très attachante par son sujet. C'est l'histoire d'un enfant mal aimé et ce livre, au fond, dénonce la maltraitance encore si présente aujourd'hui.
Oui, en effet, c'est l'histoire d'un enfant qui subit les moqueries de beaucoup de monde à cause de la couleur de ses cheveux roux et de ses taches de rousseur. Même sa mère le déteste, surtout sa mère. Pour preuve, elle le surnomme Poil de carotte. De plus, elle lui fait faire des choses horribles, achever des animaux souffrants par exemple. Et toi, qu'as-tu retenu ?
Il grandit entre une mère qui le haït et un père indifférent, trop timide pour s'interposer. Il est souvent victime des humiliations de son grand frère Félix.
Heureusement, il a une grande sœur qui est mieux intentionnée à son égard et l'aide dans la vie quotidienne. Quel a été ton personnage préféré dans ce roman ?
Personnellement, j'ai adoré Poil de carotte, car j'ai aimé suivre ses mésaventures et tout ce qui se passe dans sa vie.
Moi, j'ai préféré plutôt Sœur Ernestine. C'est la seule personne qui aide Poil de carotte dans les moments difficiles. Et Dieu sait s'il y en a des moments difficiles. L'entourage de Poil de carotte est vraiment cruel. D'ailleurs, il y a un passage qui le montre bien. Il concerne le chien de la famille. Tout à coup, Pierram qui dort sur le paillasson pousse un grognement sourd. « Chut !» fait Monsieur Lepic. Pierram grogne plus fort. « Imbécile !» dit Madame Lepic. Mais Pierram aboie avec une telle brusquerie que chacun sursaute. Madame Lepic porte la main à son cœur. Monsieur Lepic regarde le chien de travers, les dents serrées. Grand frère Félix jure et bientôt on ne s'entend plus. « Veux-tu te taire, sale chien ? Tais-toi donc, bougre !» Pierram redouble. Madame Lepic lui donne des claques. Monsieur Lepic le frappe avec son journal. Puis du pied, Pierram hurle à plat ventre, le nez bas, par peur des coups. Et on dirait que rageur, la gueule heurtant le paillasson, il casse sa voix en éclats. Et toi, Maxence, que penses-tu de cet extrait ?
Je pense que cet extrait révèle bien la méchanceté de la famille. C'est un livre sur la maltraitance. On est amené à porter un regard sévère sur l'entourage de Poil de carotte.
De plus, l'auteur rend les scènes particulièrement réalistes, vivantes et agréables à lire. On ressent d'autant mieux les émotions du petit garçon auquel on s'identifie.
Il faut absolument lire Poil de carotte. Ce n'est pas pour rien que c'est un livre célèbre et lu depuis des générations.
Poil de carotte par Jules Renard est édité chez Gallimard.
Bonjour, nous allons vous parler d'un livre qui s'intitule « Lambada pour l'enfer ». C'est un livre de Hector Hugo, aux éditions Siroche Jeunesse. Cette histoire se déroule en Colombie, à Medellín, dans un petit bidonville. Ce livre raconte la vie palpitante d'un jeune garçon nommé Raphaël.
Effectivement, ce livre évoque la vie de Raphaël, mais aussi celle de sa bande d'amis avec Maria, Javier, Georges et Manuel. Ils ont créé la Galada afin de survivre dans la rue.
Pour se faire un peu d'argent, ils travaillent. Ils vendent des journaux ou lavent des voitures contre quelques pesos. Mais parfois, ils doivent voler. Et ils choisissent souvent des touristes qui recherchent un taxi. Malheureusement pour eux, les sicarios débarquent et ils leur volent l'argent.
Tu parles des sicarios ? Qui sont-ils ?
Ce sont des tueurs, au service du cartel de la drogue. Ils sèment la terreur dans tout le bidonville de Medellín. Dans cette bande, il y a Jaime, l'un des chefs des sicarios.
Jaime se réfugie à la Casa, une vieille usine qui a été aménagée afin de recevoir des enfants de 8 à 16 ans qui vivent à la rue. Jaime se réfugie là-bas avec le padre Camilo afin de changer et de sortir de l'emprise d'El Chileno.
Raphaël va également aller se réfugier auprès du padre Camilo. Malheureusement, il va mourir.
Oui, le récit se termine de manière dramatique. c'est la surprise pour le lecteur qui pensait ou qui espérait qu'il s'en sorte.
Mais la drogue, ça n'apporte que du malheur et de la violence. Et les enfants vont en être victimes.
Tout à fait. Et cela provoque un sentiment d'injustice chez le lecteur. Mais j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il montre bien la misère des enfants obligés de vivre dans de tels environnements ou seuls contre l'argent.
De ce fait, il y a souvent des passages dramatiques dans le récit. C'est le cas lorsque Raphaël se fait tuer. Voici le passage en question. Il met la main dans sa poche, comme pour sortir les billets. Mais quand sa main ressort, dedans, il y a un revolver. Il tire. Le pneu vole en éclats. Raphaël a mis le moteur à fond. Il y a une légère pente vers le vide. El Chileno tire encore en hurlant. Arrête, arrête. Debout sur les pédales, Raphaël sait que plus rien ne peut empêcher sa chevauchée. Il hurle à son tour. Je te paye ta lambada en enfer, Chileno, pour mon grand frère.
Hélas, Raphaël, un personnage très touchant, va mourir. C'est aussi l'intérêt de ce roman de ne pas voiler la réalité et la violence qui l'accompagne. Et c'est aussi pourquoi il faut le lire.
Lambada pour l'enfer de Hector Hugo est disponible chez Sirop Jeunesse.
Bonjour Elena, nous allons parler du livre que tu as lu, qui s'intitule « Kif Kif Demain » de Faizagen, édité chez Hachette. Le livre nous parle de Doria, 15 ans, qui n'est pas acceptée par ses camarades de classe.
Oui, car elle est arabe, mais elle assume sa religion. Elle vit en banlieue avec sa mère.
Penses-tu que le sujet de la discrimination au collège est présent dans cette œuvre ?
Bien sûr. Même si Doria semble vivre avec détachement sa situation, elle souffre de ne pas se sentir comme les autres.
Tu parles de détachement. On peut même dire qu'il y a beaucoup d'humour dans ce roman.
C'est un roman avec un humour aigu. Il faut réussir à prendre certaines choses au second degré. Et c'est cet humour qui permet à Doria de s'en sortir et d'évoquer son quotidien de manière très amusante.
Qu'est-ce que tu as aimé chez Doria ?
J'ai aimé sa franchise, son humour. Elle reste toujours optimiste.
Tu devrais nous lire un passage, nous t'écoutons.
C'est lundi, et comme tous les lundis, je suis allée chez Madame Burlot. Elle est vieille, elle est moche, elle sent le parapluie. Elle est inoffensive, mais quelquefois, elle m'inquiète vraiment. Aujourd'hui, elle m'a sorti de son tiroir du bas une collection d'images bizarres. Des grosses taches qui ressemblaient à du vomi séché. Elle m'a demandé à quoi ça me faisait penser. Je lui ai dit, et elle m'a fixée avec ses yeux globuleux en remuant la tête comme les petits chiens mécaniques à l'arrière des voitures.
Qu'as-tu aimé dans ce passage ?
C'est un passage qui me fait rire. Doria montre son humour particulier et sa franchise.
Pourquoi recommanderais-tu ce livre à nos auditeurs ?
Je recommande ce livre car c'est une très bonne leçon de vie sur le fait que quelquefois, il faut se battre, que ça en vaut la peine. Doria est jeune mais si volontaire. Ça m'a impressionnée.
Merci Elena, au revoir.
De rien, au revoir.
Kif Kif demain de Faizagen est édité chez Hachette.
Bonjour Laura, tu as lu le livre « Ma réputation » de Gaëlle Aymon aux éditions Actes Sud Junior. Ce roman parle d'une rumeur et raconte l'histoire de Laura, une adolescente de 15 ans, dont les parents sont divorcés. C'est une adolescente qui ne supporte pas les filles et qui reste tout le temps avec des garçons depuis qu'elle est toute petite. Il s'agit de Sofiane, Théo et Jimmy. Durant tout le roman, elle va vivre des péripéties à cause d'un malentendu sur la relation qu'elle vit avec Sofiane.
Oui, c'est vrai que l'histoire de Laura est horrible, car des rumeurs vont être répandues sur elle, dans son lycée. Après s'être fâchée avec les trois garçons, elle se retrouve isolée. Une photo d'elle en train de dormir va être collée sur son casier, puis postée sur des réseaux sociaux. Sa vie va devenir un véritable enfer.
Comment va-t-elle faire pour supporter tout ça ? Elle doit avoir un sacré caractère pour continuer à vivre normalement avec toutes les rumeurs qui courent sur elle. Lesquelles d'ailleurs, Laura ?
Oui, c'est une battante. Elle a un caractère très fort et ne baisse jamais les bras. Mais pendant cette période, elle va changer de comportement. Elle se fait insulter, on la traite de pute. Quand on vous fait croire que vous êtes une personne qu'il ne faut pas fréquenter, vous finissez par changer de personnalité. Elle devient timide et réservée. Une seule personne va rester son amie, c'est Joséphine.
Malheureusement, une rumeur se répand très vite. C'est précisément ce que veut nous montrer ce roman. C'est la facilité et la rapidité avec laquelle une rumeur se répand. On voit bien aussi à quel point cela détruit la personne qui est touchée.
D'ailleurs, Sofiane, qui est à l'origine de l'insulte, va comprendre la gravité de ce qu'il a fait. En effet, il a fait des confidences sur Laura à ses copains et c'est ainsi que l'insulte est née. À la fin du récit, il ira présenter ses excuses à Laura. Elle lui pardonnera parce qu'elle sait qu'il n'est pas le seul responsable dans cette histoire.
Le récit est écrit à la première personne. Du coup, le lecteur s'identifie beaucoup au personnage. On a vraiment l'impression de vivre l'histoire en même temps qu'elle. Exactement comme lorsqu'elle va rencontrer Joséphine pour la première fois. La scène se déroule dans un escalier tout au fond du lycée où les deux collégiennes ont décidé d'aller déjeuner.
Voici le passage en question. Pendant une heure, je peux m'imaginer que tout va bien. Je me sens moins sale, moins seule. On mange en silence, sans essayer de se parler, ni de se voir. Et puis je dors un peu. Je ne me suis jamais sentie aussi crevée qu'en ce moment. Le bruit de ses pas me tire soudain de mes rêves. Mon cœur s'emballe. Je découvre d'abord ses baskets et le bas de son jean. Et puis son visage, quand il s'assied à côté de moi. Un beau visage, un peu bizarre, viril et bébé à la fois, avec des cheveux blonds coiffés à la Beckham. Je me sens obligée de me présenter. C'est moi l'intruse. Ma voix reste à moitié coincée dans ma gorge. Je m'appelle Laura. Je sais, moi c'est Joséphine, mais tu peux m'appeler Jo.
Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas croire les rumeurs, car elles sont presque toujours fausses, et qu'il ne faut surtout pas en créer, car elles peuvent faire beaucoup de mal à la victime et même la pousser à commettre des actes horribles.
Ma réputation de Gaëlle Aymon est éditée chez Actes Sud Junior.
Bonjour Mélissa.
Bonjour Léonie.
Mélissa, tu as lu le roman « La petite fille de Monsieur Lynn » de Philippe Claudel, édition Romanstock.
C'est exact.
Donc, c'est l'histoire de Monsieur Lynn, un vieil homme qui fuit son pays à cause de la guerre, avec comme seul bagage sa petite fille. Il arrive dans une grande ville dont il ne connaît rien, ni les paysages, ni la langue. Il se retrouve dans un refuge pour migrants. Il reste longtemps enfermé, de peur de sortir, mais au bout d'un moment, il se décide enfin à pointer le bout de son nez dehors, là où il va faire la connaissance de Monsieur Bark, un gentil monsieur qui habite la ville depuis bien longtemps. Monsieur Lynn ne comprend absolument rien à ce que lui raconte ce drôle de bonhomme. Mais très vite, il va se prendre d'affection pour ce personnage au grand cœur. Il se revoit plusieurs fois et sympathise.
Il vaut mieux s'arrêter là, pour ne pas en raconter trop. Puisque c'est un roman à chute, chute d'ailleurs totalement inattendue, qui nous laisse un long moment béat devant le livre.
Effectivement, il vaut mieux ne pas en trop en dévoiler et laisser peser le suspense. Je me demandais, Monsieur Lynn t'a-t-il ému ? Parce que moi, oui. Philippe Claudel nous le décrit de manière qu'on le perçoit comme un personnage seul, perdu et un peu fou, ce qui le rend très attachant.
Moi aussi, Monsieur Lynn m'a ému. Une vieille personne seule, loin de son pays natal, et qui donnerait tout pour sa petite fille. C'est adorable. On aimerait tant pouvoir l'aider, être près de lui et lui dire que tout ira bien.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Le thème du livre étant la guerre et surtout l'immigration, est-ce que tu as aimé ce livre ?
Personnellement, le livre en soi-même ne m'a pas énormément plu. Je n'ai pas vraiment accroché, mais c'est simplement parce que ce n'est pas vraiment le genre de livre que je préfère. Mais le fait que ce bouquin parle de l'immigration, problème actuel, m'a réellement fait réfléchir. Être à la place d'un migrant m'a montré qu'il est encore moins facile à leur place plutôt qu'à la nôtre. Il est vrai qu'il n'est pas forcément plaisant de voir des milliers de gens arriver dans son pays. Mais quand on y réfléchit deux minutes et qu'on se met à leur place, on se rend vite compte que ce sont eux les moins chanceux.
Tout à fait d'accord avec toi. Ça nous confronte à la réalité et nous laisse une trace dans l'esprit. Ce livre est vraiment très intéressant sur ce sujet-là. De plus, toute cette réflexion se fait naturellement dans la tête, pendant qu'on lit. J'ai trouvé M. Bark particulièrement bienveillant, accueillant et aimable. Je pense que c'est le personnage que j'ai préféré dans tout le livre. C'est lui qui vient vers M. Lynn la première fois. Il est très affectueux. Ce qui me plaît le plus chez lui, c'est qu'il est désespéré en voyant ce qu'est devenu cette ville de fous, où tout le monde se presse en étant stressé, sans faire attention à personne et sans prendre le temps de regarder ce qui l'entoure. Je trouve qu'il a absolument raison. Et toi, qui as-tu préféré ?
Je pense que c'est tout de même Monsieur Lynn que j'ai préféré. Sûrement parce que c'est le personnage principal de l'histoire et que l'on suit sa triste histoire. Il me touche vraiment beaucoup. De plus, il représente tous les immigrants et non pas un seul. Il les symbolise.
Merci beaucoup Mélissa pour m'avoir permis de discuter de ce livre avec toi. Je te propose de clore cette interview en nous lisant le passage que tu as préféré.
Bien volontiers, le voici.
rien ne ressemble à ce qu'il connaît. C'est comme de venir au monde une seconde fois. Passe des voitures qu'il n'a jamais vues, en nombre incalculable, dans un balai fluide et réglé. Sur les trottoirs, les hommes et les femmes marchent très vite, comme si leur survie en dépendait. Aucun n'est en guenille, aucun ne mendie. Personne ne fait attention à personne. Il y a aussi beaucoup de magasins. Leurs vitrines larges et spacieuses débordent de marchandises, dont le vieil homme ne soupçonnait même pas l'existence. Regarder cela lui donne le tournis. Il repense à son village comme on pense à un songe qu'on a fait et dont on ne sait plus très bien s'il est vraiment songe ou réalité perdue.
La petite fille de Monsieur Lin de Philippe Claudel est disponible aux éditions Stock.
Bonjour Théo, tu vas nous présenter le roman Le chat de Tigale, écrit par Didier Deninck et édité chez Cérose Jeunesse.
Oui, en effet, c'est l'histoire d'une famille qui quitte l'Algérie pour aller en France. Ils décident d'emmener avec eux leur chat, Hamish. Ce dernier se fait enlever. La famille reçoit des lettres anonymes menaçant leur chat de représailles s'ils ne laissaient pas les femelles tranquilles. Et malheureusement, ils finiront par retrouver leur chat mort.
Et oui, c'est aussi une manière de faire comprendre au maître qu'ils n'étaient pas les bienvenus parce qu'ils venaient d'Algérie. Quel thème est donc abordé au travers de cette histoire ?
Le racisme est au premier plan. Cette famille n'est pas acceptée par les habitants.
Donc ce roman dénonce le racisme et la méchanceté des gens. Pourtant, dans ce roman, le racisme est aussi traité avec une forme d'humour.
Tout à fait. Hamish a peut-être été mis à mort, mais avant, il avait des petits avec de nombreuses femelles, ce qui donnera naissance à de nombreux chatons. En moralité, au bout du compte, les origines se mélangent. Et c'est une sorte de pied de nez au racisme.
Y a-t-il un passage qui t'a particulièrement plu ?
Oui, celui-ci. Aucune de nos cinq chats n'a la même couleur de poil. Ça ronronne en noir, en blanc, en roux, en gris-perle. Chacun d'eux a une mère différente, mais il suffit de les regarder se dresser sur leurs longues pattes, étirer leur corps nerveux et pencher leur fine tête en forme de triangle étroite pour comprendre que le père est le même. Pas un n'accepte de se laisser prendre dans les bras. Ils ne sont pas sauvages, pour autant, ils semblent s'habituer à notre présence, de même qu'à leurs 18 frères et sœurs, répartis dans le village. La nuit, leur cri interminable ressemble étrangement à l'appel du Moussing de Tigali.
C'est un passage très amusant au fond. On pourrait dire le moment de la revanche. Les habitants ont voulu anéantir Hamish, mais sans succès puisqu'il se réincarne en quelque sorte dans ses multiples enfants. Et tant pis pour les racistes.
Le chat de Tigali, par Didier Deninck, est édité par Cérose Jeunesse.
Bonjour chers lecteurs, aujourd'hui nous allons vous présenter Matabra de Frank Paulov, paru aux éditions Chien. Ce livre parle de deux amis, Charlie et son copain, qui vivent une époque trouble sous un régime politique extrême appelé l'État brun.
Au début, Charlie aimait beaucoup le brun. Et comme l'État décidait que tout devait être en brun, chien, maison, etc., ça ne le gênait pas vraiment.
Oui, effectivement. C'est un État qui décide que le monde doit adopter la couleur brun. Évidemment, c'est une image qui signifie que c'est un État totalitaire où l'individu n'ont aucune liberté d'expression. Ils n'ont qu'un droit, c'est celui d'obéir au gouvernement.
Tout à fait. Ce récit nous met en garde, nous amène à réfléchir au danger d'un État qui confisque toutes les libertés. Au début du récit, les personnages n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer.
Exactement. Ça nous dit qu'il faut être toujours vigilant et que nous pouvons être privés des libertés sans nous rendre compte. Tout de suite, nous proposons à nos éditeurs la lecture d'un passage qui montre bien qu'au début, les personnages ne sont pas méfiants et jouent le jeu de la dictature.
Faut pas pousser, disait Charlie. Tu comprends, la nation n'a rien à y gagner, à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat à la souris. Brune, il avait rajouté en regardant autour de lui. Souris brune, au cas où on aurait surpris notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brune ou brun à la fin des phrases. Ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait drôle. Puis après tout, le langage s'est fait pour évoluer et ce n'est pas plus étrange de donner dans le brin que de rajouter putain ou con. À tout bout de champ, comme on fait par chez nous. Au moins, on était bien vu et on était tranquille. On avait fini par toucher le tiercé, au pas gros, et tout de même, notre premier tiercé, ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations.
Quand Charlie déclare que le langage se fait pour évoluer, il ne se rend pas compte qu'il cautionne cet état totalitaire. Malheureusement, quand il prendra conscience de la réalité, il sera trop tard.
Matin Brun est un récit court, mais très dense. Lisez-le.
Matin Brun de Franck Poloff est disponible aux éditions Chêne.
Bonjour Garance, tu as lu « Inconnu à cette adresse » écrit par Catherine Cressman-Taylor, édité dans le livre de poche. Cette histoire raconte l'histoire de deux garçons, Max et Martin, qui vivent en Allemagne. Quand Hitler prend le pouvoir, Max, qui est juif, est obligé de s'enfuir et il se rend en Amérique. Du coup, il va correspondre avec son ami, Martin. Ils évoquent très souvent l'actualité politique, ce qui va éloigner les deux amis, malgré la galerie qu'ils ont en commun aux États-Unis et qui est gérée par Martin.
Effectivement, ce livre raconte la vie de deux amis qui s'éloignent l'un de l'autre à cause de leur religion. L'un est juif et de leur opinion politique puisque Martin devient membre important du parti nazi. J'ai bien aimé Max parce que Max est loyal à sa religion. Il ne se laisse pas faire par Martin quand ce dernier tient des propos agressifs à l'égard des juifs.
Moi aussi, j'ai bien apprécié ce personnage. Il fait naître l'indignation. On partage facilement son point de vue parce que c'est un personnage honnête. Il s'oppose à Martin, qui manque d'humanité et qui endosse toutes les idées du parti nazi. Quel est le moment que tu as préféré dans le récit ?
Je vais commencer par le lire. Puis j'espérais manger un jour comme j'ai mangé là-bas. Maintenant, je vais au restaurant et devant mon roast-beef solitaire, j'ai des visions de jambon en brioche fumant dans sa sauce au vin ou de Bourgogne et de ses fines pâtes fraîches et de ses asperges incomparables. Non, décidément, je ne me réconcilierai jamais avec mon régime américain et les vins si précautionneusement déchargés des bateaux allemands et des toasts que nous avons portés en levant nos verres pleins à ras-bord pour la quatrième, la cinquième et la sixième fois.
Qu'est-ce qui te plaît en particulier dans ce passage ?
J'aime bien la nostalgie de ce passage quand Max se souvient de ces bons moments qui ont été détruits à cause de la guerre et d'une idéologie fasciste.
Qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre ?
J'aime bien cette période de l'histoire et c'était intéressant de voir la confrontation entre les deux personnages.
Oui, c'est un livre touchant sur le plan humain et qui reste très actuel. Nous sommes encore aujourd'hui confrontés à des idées extrémistes et il faut empêcher ces idées de grandir. C'est bien aussi cela que nous montre le roman.
Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman-Taylor est disponible au livre de poche.
Merci à nos professeurs, Madame Brignon et Madame Dénin, de nous avoir accompagnés dans cette aventure et à vous de les avoir écoutés.